これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
ヘッベンガ。
Le Gai Savoir. Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la lecture, Anne Brissier et Georges Kless.
Et à la réalisation, François Connac.
Tout être qui se prend pour le centre du monde est d'abord le sujet d'une erreur. C'est la leçon des lettres persanes, chef-d'œuvre d'un homme trop intelligent pour ne pas être sceptique, et où il s'agit non plus de penser par soi-même, mais de penser par l'autre, et d'accueillir la différence au lieu d'en faire une anomalie. Que ce soit les dévots, les despotes, les fous, les fétichistes, les libertins ou les moines, Montesquieu se moque de tout le monde, et au fond ne juge personne, car quel qu'en soit le sujet, les lettres persanes, et c'est tout leur génie, se présentent comme une carte du monde, avec l'Europe à sa périphérie pour une fois, et elles se lisent comme un costume d'arlequin, dont les couleurs se mélangent du coup, sans jamais se perdre.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Les lettres persanes de Montesquieu paraissent pour la première fois sous un nom d'auteur en 1721 à Amsterdam. Et le succès ne se fait pas attendre. Le public européen est alors friand de romans épistolaires et de fictions orientales. L'intrigue d'ailleurs est assez simple et a tout pour plaire. Ouzbek, maître d'un sérail à Ispahan, entreprend un long voyage jusqu'en France, accompagné de son jeune ami Rika. Derrière lui, il laisse 5 femmes, Zaki, Zéphis, Fatmé, Zélis et Roxane, sous la surveillance de plusieurs eunuques noirs. La vie dans le sérail devient une sorte de récit parallèle aux aventures des deux persans en Occident. À travers les lettres que le vertueux Ouzbek et le malicieux Rika envoient à leurs compatriotes, et grâce au génie de l'écrivain, se dessine plus encore qu'une critique de la société française, une leçon de tolérance qui passe par un regard différent sur l'autre.
Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivais, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel. Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres. Si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi. Les femmes même faisaient un arc-en-ciel nuancé de 1000 couleurs qui m'entouraient. Si j'étais au spectacle, je voyais aussitôt 100 lorgnettes dressées contre ma figure. Enfin, jamais homme n'a été tant vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient entre eux « Il faut avouer qu'il a l'air bien persan ». Chose admirable. Je trouvais de mes portraits partout. Je me voyais multiplié dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées, tant on craignait de ne m'avoir pas assez vu. Tant d'honneur ne laisse pas d'être à la charge. Je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare. Et quoique j'aie très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d'une grande ville où je n'étais point connu. Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan et à en endosser un à l'européenne pour voir s'il resterait encore dans ma physionomie quelque chose d'admirable. Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement. Libre de tous les ornements étrangers, je me vis apprécié au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime publique, car j'entrais tout à coup dans un néant affreux. Je demeurais quelquefois une heure dans une compagnie sans qu'on m'eût regardé et qu'on m'eût mis en occasion d'ouvrir la bouche. Mais si quelqu'un, par hasard, apprenait à la compagnie que j'étais persan, j'entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement. « Ah ! Ah, monsieur est persan. C'est une chose bien extraordinaire. Comment peut-on être persan ? »
C'était un chat, un pacha, plein d'argent, chat persan, si puissant, que dans le fond, son harem, toutes les femmes lui disaient, chat, 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 comme on t'aime, mais malgré ses mimi, ses mimi, ses milliards, le pacha, cha-cha-cha, avait bien le cafard des pépés, des pépés, des pétroles, il était saturé.
Eh oui, Raphaël, comment peut-on être persan ?
C'est génial cette question, non ? Comment peut-on être persan ? C'est au choix. La question la plus bête ou la plus intelligente du monde. D'abord, c'est une question qui rappelle MacMahon. Enfin, qui rappelle MacMahon, le pauvre. Il est arrivé bien après. Mais enfin, vraiment, MacMahon n'a rien inventé quand un jour, passant en revue la promotion de l'école polytechnique, il s'approche du major de la promotion, qui était donc l'élève le mieux classé. Et il se trouve que le major de la promotion avait la peau un peu foncée. Et MacMahon lui dit « Ah, c'est vous le nègre ?» Eh bien, continuez. Qui est une phrase géniale. Ça a donné chez San Antonio comme ça un personnage qui dit souvent je fais comme le nègre, je continue. C'est la phrase la plus bête du monde parce que c'est une phrase qui signifie l'essentialisme naturellement et qui fleure bon l'orientalisme de salon. Ah mais comment peut-on être persan ? Comme c'est exotique, comme c'est original, comme si celui qui était persan avait par là même choisi de faire quelque chose d'original pour plaire aux dames du salon. C'est le sommet de l'européocentrisme, de l'anthropocentrisme, qui est évidemment l'ennemi de Montesquieu dans ses lettres persanes.
Mais autrement dit, ça pose la question, comment peut-on être autre et le même ?
Alors voilà, c'est que, en amont de cette question, et c'est une question véritablement ambivalente, plus qu'ambiguë, elle n'est pas du tout ambiguë. Comment peut-on être persan ? On voit très bien la dame en costume s'émerveiller du costume un peu exotique du persan. Bon. Mais dans le même temps, c'est la formule même de l'étonnement ontologique. C'est pas seulement, si vous voulez, l'éclat de rire de l'occidental qui se marre en regardant celui qui ne lui ressemble pas, mais c'est aussi la formule de l'intérêt supérieur qu'on témoigne à celui qui n'est pas comme soi. De sorte que c'est à la fois la formule la plus anthropocentrique, la plus égocentrique qui soit. Oh, mais monsieur n'est pas comme moi, quelle drôle d'idée. Mais monsieur ne parle pas français comme tout le monde, mais quelle bizarrerie, quelle singularité, venez donc dîner chez moi. Vous serez le con du dîner. Donc, ça peut être la formule de l'égocentrisme. Mais c'est aussi la formule de la surprise face au spectacle de l'inhabituel. De l'aptitude à être surpris par l'inhabituel. De l'étonnement ontologique. Que les choses soient ainsi. C'est-à-dire, que vous soyez persan et que moi je sois français. Que les choses soient ainsi et non pas autrement. Reste et demeure une source inextinguible d'émerveillement. Et vous voyez derrière ça, il y a deux versions de la curiosité dans cette lettre, cette première lettre persane, je crois que c'est la lettre 30. Il y a vraiment deux versions de la curiosité. La curiosité naturelle, du type qui cherche à décrypter celui dont l'accoutrement le surprend et qu'il ne peut pas s'empêcher de tenir pour bizarre parce que c'est pas comme ça qu'on fait chez lui. Et la curiosité spontanée de celui qui, par la différence de l'autre, découvre du coup qu'il est lui-même l'autre d'un autre. Donc un égocentre d'un côté, de l'autre côté un décentrement. Il y a vraiment d'un côté la curiosité arrogante de celui qui se penche avec condescendance sur le chef Raoni, si vous voulez, qui parle pas français comme tout le monde, et de l'autre côté la curiosité sincère de celui qui, au sens littéral, se laisse altérer par l'autre.
Bonsoir Raoni, bon dia.
Bon dia, bon dia, bonjour.
Je peux vous appeler Raoni ?
Ah non.
Oui, vous pouvez. Bien aujourd'hui, il a sa parure de plumes de perroquet jaune avec deux plumes d'ara rouge et bleu au centre, entouré de petites plumes noires de moutoum, un oiseau amazonien, et il a autour du cou un collier de perles bleues marines et de coquillages. En fait, ce sont des coquillages de forêt amazonienne.
Et il a toujours son labret, bien sûr.
Oui, il a son labret et ses longs cheveux qui sont aujourd'hui un peu plus gris qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans.
Voilà, le labret, c'est ce plateau de bois qui enserre sa lèvre inférieure.
Et à tout ça, j'ajouterais juste une remarque qui est, à mon avis, essentielle dans cette lettre, et qui vient de Pascal, c'est-à-dire du siècle d'avant. On est, vous l'avez rappelé dans les lettres persanes, au début du XVIIIe siècle. C'est un écrit de jeunesse de Montesquieu, génial, complètement génial, génial de part en part. Pascal est celui qui, enfin, c'est le premier à dire à quel point le changement de tenue change tout. À quel point dans les grandeurs d'établissement, seul compte la para, la tenue. Par exemple, ici dans la lettre de Montesquieu, vous enlevez son vêtement au persan, que reste-t-il du persan ? Rien du tout, plus personne ne le remarque. Pascal, ne diriez-vous pas que ce magistrat, dont la vieillesse vénérable impose le respect à tout un peuple, se gouverne par une raison pure et sublime et qu'il juge des choses par leur nature, sans s'arrêter aux vaines circonstances, etc., etc., Voyez-le entrer dans la place où il doit rendre la justice, etc., etc. Si l'avocat vient apparaître et que la nature lui ait donné une voix enrouée et un tour de visage bizarre, que le barbier l'ait mal rasé et que le hasard l'ait encore barbouillé, je parie la perte de la gravité du magistrat. Il suffit de ne plus avoir la tête de l'emploi pour ne plus être celui que les autres voient en vous. Alors, on pourrait dire, c'est une confusion épouvantable de l'être et de l'apparence. Je crois que ça va plus loin. C'est plutôt la généalogie de l'idée même de substance à partir de l'apparence. C'est-à-dire, en gros, vous êtes ce que vous paraissez dans le monde des humains. C'est-à-dire dans le monde de ces amours absurdes et de ces amours dictés par l'intérêt. Vous êtes ce que vous paraissez. Rousseau fera son miel de ça. Et nous n'aurions pas l'idée d'une substance propre à chaque peuple si chaque peuple n'avait pas lui-même un accoutrement spécifique aujourd'hui réduit au folklore par la condescendance occidentale, par exemple.
Alors, il est important de rappeler aussi la technique qu'utilise Montesquieu, c'est la technique du regard éloigné, donc bien avant Lévi-Strauss en fait. Et j'ai trouvé une définition de Valérie qui raconte très bien ce qu'est le regard éloigné. Donc il dit « Entrer chez les gens pour déconcerter leurs idées, leur faire la surprise d'être surpris de ce qu'ils font, c'est au moyen de l'ingénuité feinte ou réelle, donner à ressentir toute la relativité d'une civilisation, d'une confiance habituelle dans l'ordre établi. »
C'est le grand lien qu'il faut faire entre la candeur et le décentrement. Si vous n'êtes plus le centre du monde, vous pouvez par là même reconquérir la candeur que vous avez perdue en étant convaincu d'être une substance. Le décentrement est une condition de la candeur. Ou la candeur est un effet du décentrement. L'étonnement ontologique, comment peut-on être persan ? On n'en sortira pas de cette phrase-là. Comment peut-on être persan ? Cette interrogation, elle va nous hanter pendant toute l'émission. Comment peut-on être persan ? C'est aussi donc la formule du décentrement, du type qui découvre en quelqu'un d'autre, s'aperçoit qu'il est lui-même l'autre d'un autre et donc n'est plus lui-même au centre. J'ai parlé de Pascal tout à l'heure, faut parler de Spinoza dans ce qui nourrit le propos de Montesquieu. L'influence de Spinoza est décisive. Il y a par exemple une lettre dans laquelle Montesquieu dit, c'est Rica qui raconte son séjour à Paris, et il dit « J'étais l'autre jour dans une maison, il y avait un cercle de gens de toute espèce. » Je trouvais la conversation occupée par deux vieilles femmes qui avaient en vain travaillé tout le matin à se rajeunir. Il faut avouer, disait une d'entre elles, que les hommes d'aujourd'hui sont bien différents de ceux que nous voyons dans notre jeunesse. Ils étaient polis, gracieux, complaisants, mais à présent je les trouve d'une brutalité insupportable. Traduction, cette dame qui n'a plus rien pour plaire considère que, par conséquent, les hommes ont changé. Ça n'est pas elle qui a changé. Ce sont les hommes qui ont changé. Un moment après, la conversation tourna du côté de la politique. « Morbleu, dit un vieux seigneur, l'État n'est plus gouverné. Trouvez-moi à présent un ministre comme Monsieur Colbert. » Je le connaissais beaucoup, ce Monsieur Colbert. Il était de mes amis. Il me faisait toujours payer de mes pensions avant qui que ce fût. Le bel ordre qu'il y avait dans les finances. Tout le monde était à son aise, mais aujourd'hui, je suis ruiné. » C'est génial. Tout était en ordre parce que j'étais payé au bon moment. Et ainsi de suite, un ecclésiastique. Vous parlez là du temps le plus miraculeux de notre invincible monarque. Y a-t-il rien de si grand que ce qu'il faisait alors pour détruire l'hérésie? Et comptez-vous pour rien l'abolition des duels, dit d'un air content un autre homme qui n'avait point encore parlé. Et ainsi de suite. Conclusion de Rica. Il me semble, Usbek, que nous ne jugeons jamais des choses que par un retour secret que nous faisons sur nous-mêmes. Je ne suis pas surpris que les nègres peignent le diable d'une blancheur éblouissante et leurs dieux noirs comme du charbon, que la Vénus de certains peuples ait des mamelles qui lui pendent jusqu'aux cuisses et qu'enfin tous les idolâtres aient représenté leurs dieux avec une figure humaine et leur aient fait part de toutes leurs inclinations. On a dit fort bien que si les triangles faisaient un dieu, ils lui donneraient trois côtés. Or ça, c'est du Spinoza. Alors, juste pour rester sur cette influence de Spinoza sur Montesquieu, il y a d'autres textes moi qui me semblent délicieux. Par exemple, une lettre de Usbek à Redi qui vient de Venise et il dit « Les philosophes les plus sensés qui ont réfléchi sur la nature de Dieu ont dit qu'il était un être souverainement parfait. Mais ils ont abusé de cette idée. Ils ont fait une énumération de toutes les perfections différentes que l'homme est capable d'avoir et d'imaginer et en ont chargé l'idée de la divinité sans songer que souvent ces attributs s'entre-empêchent et qu'ils ne peuvent subsister dans un même sujet sans se détruire. Dieu n'est plus qu'un sujet parce qu'il ressemble aux hommes et en plus il a tellement de perfections que ça en devient contradictoire à la manière dont Spinoza se moque de ces dieux qui ne sont plus que des tyrans, que des rois.
Alors vous avez parlé Raphaël tout à l'heure de la religion, en effet dans les lettres persanes on parle beaucoup de religion, c'est surtout Usbek plus que Rica qui est plus jeune et ça le préoccupe un peu moins et notamment une lettre de Usbek à un dervi Le dervis de la montagne de Jaron, je vous propose de l'écouter.
Ô toi, sage dervis, dont l'esprit curieux brille de tant de connaissances, écoute ce que je vais te dire. Il y a ici des philosophes qui, à la vérité, n'ont point atteint jusqu'au fait de la sagesse orientale. Ils n'ont point été ravis jusqu'au trône lumineux. Ils n'ont ni entendu les paroles ineffables dont les concerts des anges retentissent, ni senti les formidables accès d'une fureur divine. Mais, laissés à eux-mêmes, privés de saintes merveilles, ils suivent dans le silence les traces de la raison humaine. Tu ne saurais croire jusqu'où ce guide les a conduits. Ils ont débrouillé le chaos et ont expliqué par une mécanique simple l'ordre de l'architecture divine. L'auteur de la nature a donné du mouvement à la matière. Il n'en a pas fallu davantage pour produire cette prodigieuse variété d'effets que nous voyons dans l'univers. Que les législateurs ordinaires nous proposent des lois pour régler les sociétés des hommes, des lois aussi sujettes au changement que l'esprit de ceux qui les proposent et des peuples qui les observent, ceci ne nous parle que de lois générales, immuables, éternelles, qui s'observent sans aucune exception, avec un ordre, une régularité et une promptitude infinie dans l'immensité des espaces. Et que crois-tu, homme divin, que soient ces lois ? Tu t'imagines peut-être qu'entrant dans le conseil de l'Éternel, tu vas être étonné par la sublimité des mystères. Tu renonces par avance à comprendre. Tu ne te proposes que d'admirer. Mais tu changeras bientôt de pensée. Elles n'éblouissent point par un faux respect. Leur simplicité les a fait longtemps méconnaître. Et ce n'est qu'après bien des réflexions qu'on en a connu toute la fécondité et toute l'étendue. La première est que tout corps tente à décrire une ligne droite, à moins qu'il ne rencontre quelque obstacle qui l'en détourne. Et la seconde, qui n'en est qu'une suite, c'est que tout corps qui tourne autour d'un centre tente à s'en éloigner, parce que plus il en est loin, plus la ligne qu'il décrit approche de la ligne droite. Voilà, sublime dervis, la clé de la nature. Voilà des principes féconds, dont on tire des conséquences à perte de vue, comme je te le ferai voir dans une lettre particulière. La connaissance de 5 ou 6 vérités a rendu leur philosophie pleine de miracles et leur a fait faire plus de prodiges et de merveilles que tout ce qu'on nous raconte de nos saints prophètes.
On sent bien dans ce texte que Usbek hésite entre l'admiration qu'il a pour la philosophie occidentale et le respect qu'il doit à sa philosophie orientale.
Usbek est un personnage très ambigu. Enfin, c'est un personnage aux passions équivoques ou contradictoires.
Comme on le verra, par exemple, pour les femmes.
Mais oui, pour les femmes, bien sûr. C'est l'ami du genre humain, Usbek. Hein. C'est le défenseur du droit international, on le verra plus tard. C'est celui qui ne renonce pas. Il est d'ailleurs, c'est très intéressant, il est contre la polygamie. Et pourtant, il malmène ces femmes qui l'attendent dans son sérail et qui se révoltent en son absence. Il est contre la polygamie, il fait l'éloge du divorce, il est contre l'esclavage, il est contre les colonies. Il trouve ça monstrueux et barbare, les colonies. On est au XVIIIe siècle. Hein. Il est contre les colonies. Il fait l'éloge de la République et il est le premier à repérer dans la modestie une forme d'orgueil tout en faisant quand même un éloge véritable. Il est le plus spinoziste de tous, qui ne cesse de dire que les choses sont neutres, n'ont pas de valeur en soi. Il dit « Il me semble que les choses ne sont en elles-mêmes ni pures ni impures. » En d'autres termes, comme dira Nietzsche 300 ans plus tard ou 200 ans plus tard, il n'y a pas de phénomènes moraux, il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes. Donc Usbek, c'est un homme des Lumières. Et en même temps, c'est un homme qui est prisonnier de sa propre culture. Il ne s'agit pas ici de juger
sa culture, c'est-à-dire la culture du Coran, du Saint Al-Coran, comme dit Montesquieu. C'est pas le problème du tout. Le problème, c'est l'emprisonnement dans une culture particulière et les tensions que ça provoque. Or, dans cette lettre, c'est extraordinaire parce qu'on sent bien que Usbek est très sensible à ce qu'il découvre. Il est émerveillé par ses découvertes. D'ailleurs, le simple fait qu'il emploie un vocabulaire religieux pour parler des vérités de la science est très intéressant. La connaissance de 5 ou 6 vérités a rendu leur philosophie pleine de miracles. L'emploi de ce mot n'est pas innocent. Il joue sur les deux tableaux. Il voudrait convaincre le dervis de la montagne de Jaron que la philosophie a peut-être un pouvoir supérieur au Saint Alcoran. Et dans le même temps, il s'effraie lui-même de ce qu'il éprouve. Et il termine cette lettre dont on a entendu un morceau, lu par Anne Brissier. Oui. Comment il l'a fini?
Tandis que je vivrai, Ali sera mon prophète.
Non, grâce au ciel, l'esprit n'a pas corrompu le cœur. Et tandis que je vivrai, Ali sera mon prophète.
Alors que plus haut, il disait justement à son dervi, tu vas être étonné par la sublimité des mystères, tu renonces par avance à comprendre, tu ne te proposes que d'admirer.
Il ne cesse de dire d'ailleurs, ô toi, sage dervis, dont l'esprit curieux brille de tant de connaissances. Oui, mais toutes les connaissances du dervis ne sont qu'ignorance, en réalité. Et c'est ce qu'il sait, c'est ce qu'il sent, c'est ce qu'il pressent au regard de ce qu'il découvre, de ce qu'il est capable de découvrir, d'envisager, là, dans ses lettres. Alors, ce que dit Usbek est vraiment... vous avez dit qu'il parlait de Dieu dans les lettres persanes. Et c'est vrai que Dieu est très présent, mais il y a beaucoup de débats sur Dieu, et en particulier sur la façon que l'on a de se le représenter sous toutes les latitudes. L'avantage de cet exercice de décentrement, c'est que ça permet d'observer des constantes, des choses immuables, c'est-à-dire que les Persans observent aussi que les Occidentaux, malgré toute leur bizarrerie, toutes leurs étrangetés, leurs académies françaises, leurs rois, leurs églises, leurs machins, leurs trucs de séduction, etc., etc., malgré toutes ces bizarreries, il y a des constantes. Et ces constantes, ce sont ces docteurs, dit Usbek, qui représentent Dieu comme un être qui fait un exercice tyrannique de sa puissance, qui le font agir d'une manière dont nous ne voudrions pas agir nous-mêmes, de peur de l'offenser, qui le charge de toutes les imperfections qu'il punit en nous, et dans leurs opinions contradictoires, le représente tantôt comme un être mauvais, tantôt comme un être qui hait le mal et le punit. C'est le même homme qui écrit cette lettre et qui écrit à Hassein Dervis de la montagne de Jaron en lui parlant avec toute la révérence qui convient à la haute position qu'il occupe. Mais Usbek n'en croit rien. Usbek est bien conscient qu'il est là en présence d'une imposture dans la mesure où elle se prend pour la vérité. Et que la seule chose qui compte, c'est de comprendre d'où vient le désir que nous avons de croire en un Dieu de cette nature.
Alors, Usbek, on vient de le voir, parle avec donc le dervi, mais il lui arrive aussi de parler souvent, même avec des juifs.
Oui, il parle avec des juifs. Il se plaint d'ailleurs du sort qui est réservé aux juifs dans certaines contrées. Il faut bien comprendre une chose, c'est que chez Montesquieu, c'est un sujet terminal en général. On se dit, pour être tolérant, suffit-il d'être sceptique? Puis on se sert souvent de Montaigne pour dire, ah bah oui, Montaigne est sceptique, alors il est tolérant. Oui, mais en même temps, il est trop tolérant parce qu'il tolère les cannibales. Et puis on termine avec Kant en expliquant que la tolérance, c'est pas seulement du laisser passer ou du laisser aller, mais c'est aussi une valeur qu'il faut défendre. Bon, et en général, on a une bonne note en terminale. Au-delà, c'est plus difficile quand même. La tolérance chez Montesquieu n'est pas un principe. C'est une vertu émergente de l'expérience que font les Persans. Qu'ils aillent à Moscou, à Venise ou à Paris, parce qu'ils vont un peu partout, où qu'ils aillent, ils sont contraints à une certaine forme de tolérance. Usbek dit, je suis comme un enfant. Je suis comme un enfant dont les moindres sens sont agités par tout ce qu'il perçoit. Il y a notamment, dans ce cadre-là, une lettre à un médecin juif à Livourne. Alors, c'est pas Usbek qui l'écrit d'ailleurs, c'est Rika. Mais c'est pareil, Rika et Usbek n'ont pas le même caractère, on le verra quand on parlera de la bombe atomique dont il est question dans les lettres persanes. Mais c'est la même chose ici. Que dit Rika à Nathanaël Lévy, médecin juif à Livourne? Tu me demandes ce que je pense de la vertu des amulettes et de la puissance des talismans? Pourquoi t'adresses-tu à moi? Tu es juif et je suis mahométan, c'est-à-dire que nous sommes tous deux bien crédules. Et moi je rêve, Paola, on est au début du 18e siècle et au début du 21e siècle, personne n'est capable de dire une phrase pareille. Tu es juif et je suis mahométan, c'est dire que nous sommes tous deux bien crédules. C'est le point de départ de toute discussion.
C'est le commencement de toute discussion véritable, c'est-à-dire de toute discussion qui ne soit pas seulement une sorte d'œcuménisme bien pensant où il s'agit de réunir les communautés en disant qu'au fond on croit au même Dieu et qu'il faut respecter les différences, qui en vérité n'en sont pas. Vous voyez, toutes ces discussions auxquelles on en appelle dès qu'il y a des tensions communautaires, etc. Il faudrait commencer par dire que tout le monde est bien crédule. C'est le point de départ de la discussion, c'est-à-dire s'humilier collectivement. Non pas devant Dieu, mais devant le réel. Et ménager les conditions de possibilité d'une discussion, c'est-à-dire la possibilité de penser contre soi. Mais ça, c'est presque un projet de société dont les lettres persanes portent la nostalgie en permanence. La lettre de Rika au médecin juif est un modèle du genre, précisément parce qu'il commence par s'écraser et écraser l'autre avec lui. À partir de là, la discussion peut commencer.
Puisqu'on est dans les liens 18e siècle, 21e siècle, il y a d'autres lettres qui sont intéressantes. J'aimerais qu'on entende la correspondance entre Reddy et Ouzbek à propos de la bombe et des nouvelles des technologies guerrières.
Alors, militaires. Vous savez que c'est intéressant parce que l'échange que vous évoquez là est un échange qui est pour le coup objectivement prémonitoire. C'est-à-dire qu'il arrive que on croise des prémonitions dans les textes. Il y en a quelques-unes, par exemple, dans les lettres persanes, il y a un moment où on a l'impression que Montesquieu commente le traité de Versailles. Il dit très exactement ceci: « Les traités de paix sont si sacrés parmi les hommes qu'il semble qu'ils soient la voix de la nature qui réclame ses droits. Ils sont tous légitimes lorsque les conditions en sont telles que les deux peuples peuvent se conserver, sans quoi celle des deux sociétés qui doit périr, privée de sa défense naturelle par la paix, la peut chercher dans la guerre. » On est en 1721, c'est-à-dire très exactement 198 ans avant la signature du traité de Versailles, dont aucun des signataires n'avait manifestement lu les lettres persanes. Mais le passage auquel vous faites référence, Paola, est encore plus étonnant.
Tu m'as beaucoup parlé dans une de tes lettres des sciences et des arts cultivés en Occident. Tu me vas regarder comme un barbare, mais je ne sais si l'utilité que l'on en retire dédommage les hommes du mauvais usage que l'on en fait tous les jours. J'ai ouï dire que la seule invention des bombes avait ôté la liberté à tous les peuples d'Europe. Les princes, ne pouvant plus confier la garde des places aux bourgeois qui, à la première bombe, se seraient rendus, ont eu un prétexte pour entretenir de gros corps de troupes réglés avec lesquels ils ont dans la suite opprimé leurs sujets. Tu sais que depuis l'invention de la poudre, il n'y a plus de place imprenable, c'est-à-dire, Ouzbek, qu'il n'y a plus d'asile sur la terre contre l'injustice et la violence. Je tremble toujours qu'on ne parvienne à la fin à découvrir quelques secrets qui fournissent une voie plus abrégée pour faire périr les hommes, détruire les peuples et les nations entières. Tu as lu les historiens. Fais-y bien attention.
Peuple de Wakir, je viens à vous aujourd'hui vous dire que le monde va s'agenouiller devant notre grande nation. Nous aurons notre propre uranium de qualité militaire d'ici 2 mois. Une production uniquement à usage pacifique. Il sera consacré à la recherche médicale et aux énergies écologiques. Vous verrez. Et jamais de la vie, cet uranium servira à attaquer Israël.
Après un tel discours, la communauté internationale s'interroge. Le chien enragé de la Wadiya possède-t-il l'arme nucléaire ?
Allez, montre-moi mes bombes atomiques, j'ai trop hâte !
Tu ne penses pas ce que tu dis, ou bien tu fais mieux que tu ne penses ? Tu as quitté ta patrie pour t'instruire et tu méprises toute instruction. Tu viens pour te former dans un pays où l'on cultive les beaux-arts et tu les regardes comme pernicieux. Te le dirai-je, Reddy ? Je suis plus d'accord avec toi que tu ne l'es avec toi-même. As-tu bien réfléchi à l'état barbare et malheureux où nous entraînerait la perte des arts ? Il n'est pas nécessaire de se l'imaginer, on peut le voir. il y a encore des peuples sur la terre chez lesquels un singe passablement instruit pourrait vivre avec honneur. Il s'y trouverait à peu près à la portée des autres habitants. On ne lui trouverait point l'esprit singulier, ni le caractère bizarre. Il passerait tout comme un autre, et serait distingué même par sa gentillesse. Tu dis que les fondateurs des empires ont presque tous ignoré les arts. Je ne te nie pas que des peuples barbares n'aient pu, comme des torrents impétueux, se répandre sur la terre et couvrir de leurs armées féroces les royaumes les mieux policés. Mais prends-y garde. Ils ont appris les arts, ou les ont fait exercer aux peuples vaincus. Sans cela, leur puissance aurait passé, comme le bruit du tonnerre et des tempêtes. Tu crains, dis-tu, que l'on invente quelque manière de destruction plus cruelle que celle qui est en usage ? Non. Si une fatale invention venait à se découvrir, elle serait bientôt prohibée par le droit des gens, et le consentement unanime des nations ensevelirait cette découverte. Il n'est point de l'intérêt des princes de faire des conquêtes par de pareilles voies. Ils doivent chercher des sujets, et non pas des terres.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Le Gai Savoir, une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
Donc, la correspondance qu'on vient d'entendre, Raphaël, est, comme vous l'avez dit juste avant, très prémonitoire. Mais elle anticipe aussi, je trouve, sur des philosophes du XXe siècle, par exemple, ce que dira Heidegger des technologies.
On vous parle de bombes atomiques et vous entendez Heidegger.
Parle pas de bombes atomiques.
Quand même, écoutez, presque. Tu sais que depuis l'invention de la poudre, il n'y a plus de place imprenable. Je tremble toujours qu'on ne parvienne à la fin à découvrir quelques secrets qui fournissent une voie plus abrégée pour faire périr les hommes, détruire les peuples et les nations entières. Encore une fois, on est en 1721. Alors, il ne dit pas bombe atomique. Bien. Et d'ailleurs, juste avant, il y a le 11 septembre. Il n'y a plus de place imprenable. La grande leçon du 11 septembre, c'est qu'un sanctuaire comme Manhattan n'est plus à l'abri du terrorisme. Et c'est en cela que c'était un traumatisme occidental, typiquement occidental, c'est-à-dire que le dernier sanctuaire ou l'un des derniers sanctuaires venait de tomber. Et nous entrions dans une société qui ne garantit nulle part, justement, la sécurité absolue à laquelle tout le monde devrait pouvoir prétendre. Vous avez raison de mentionner Heidegger, parce que le diagnostic de Reddy est un diagnostic pessimiste, c'est un diagnostic qui porte sur les méfaits de la technique. Donc incontestablement, il fait de la technique un des aliments de la destruction des empires, un des ferments de la destruction des empires. Avant Heidegger, c'est 30 ans après les lettres persanes, 34 ans après les lettres persanes, le premier discours de Rousseau sur les sciences et les arts qui est ici en jeu. Je ne sais si l'utilité que l'on en retire dédommage les hommes du mauvais usage que l'on en fait tous les jours. Ça, c'est du Rousseau, non pas dans le texte, puisqu'il n'avait pas encore écrit, mais c'est du Rousseau tout craché. Ça n'est que cela, d'ailleurs. Réponse de Husbecq à Reddy. Je suis plus d'accord avec toi que tu ne l'es avec toi-même, ce qui est exactement le genre de réponse qu'on pourrait faire à Jean-Jacques Rousseau, d'ailleurs. Et puis, réponse surtout de Husbecq à Reddy sur la question de la bombe, c'est-à-dire de cette arme de destruction massive que Reddy entrevoit plus de 200 ans avant 1945. Tu crains, dis-tu, que l'on invente quelque manière de destruction plus cruelle que celle qui est en usage ? Non. Si une fatale invention venait à se découvrir, elle serait bientôt prohibée par le droit des gens et le consentement unanime des nations ensevelirait cette découverte. C'est le traité de non-prolifération. Ça n'est que cela. Il faut revenir sur cette prémonition, parce que faut bien comprendre une chose, c'est qu'en philosophie, c'est pas de la pensée, on n'est pas en pensée magique. Donc il s'agit pas de dire c'est Nostradamus, etc. Non, c'est la magie de la pensée. Ce sont des gens qui, à force de voir, d'analyser et de donner à leur caractère, de faire de leur caractère un outil de connaissance, c'est-à-dire de faire de leur tempérament une façon d'explorer le monde, eh bien, découvrent ce que le monde n'a pas encore produit. Reddy est pessimiste. Il fait de son caractère un scalpel, un scialytique pour explorer le monde et il découvre la bombe atomique. Husbecq est optimiste, c'est l'ami du genre humain. Il fait de son caractère un scalpel et il découvre le droit international, c'est-à-dire le consentement, ce qu'il appelle le consentement unanime des nations. Le résultat, c'est que c'est en 1721, à l'ère des flèches et de la poudre à canon, plus de 2 siècles avant qu'une bombe de la taille d'un ballon puisse raser une ville, que sous la plume de Montesquieu est né le débat sur les armes de destruction massive et le danger de leur prolifération.
Mais donc ce n'est pas de la... Enfin, moi j'avais pensé en lisant le texte de Houellebecq que c'était plutôt de la bien-pensance plus que de l'universalisme.
Qu'est-ce que vous appelleriez ici bien-pensance?
C'était l'optimisme dont vous parliez, l'optimisme d'Houellebecq.
Alors, il y a du bon sentiment, mais ce sont des sentiments bons. Mmh. Si vous voulez, le problème des bons sentiments, contre lesquels justement Montesquieu écrit, qu'est-ce qu'un bon sentiment? Un bon sentiment, par exemple, c'est l'idée de diversité. Voyez, c'est diversity, c'est le pays rose bonbon où sont nés tous les gens de couleur. Voyez, les bons sentiments, c'est faire à l'autre le cadeau empoisonné, de lui faire des éloges, ou plus exactement, de lui chanter une chanson qu'on voudrait douce à son oreille, mais qui en réalité grince à son oreille, c'est-à-dire de bien l'aimer dans la mesure où il correspond à l'idée qu'on s'en fait. Les bons sentiments sont impérialistes. C'est ça leur inconvénient. Mmh. Les bons sentiments, ne doutant pas d'être bons, ne doute pas d'être dans le vrai quand il s'adresse à quelqu'un. C'est pas tout à fait le cas d'Houellebecq, qui ne cesse de découvrir à quel point le monde est différent de lui-même, et à quel point surtout lui-même est différent de lui-même. Il porte dans ses tensions intimes, on va le voir avec l'épisode du sérail, du harem, il porte en lui-même la douleur d'une contradiction insoluble. Donc Houellebecq est moins dans les bons sentiments que dans l'espoir d'une construction universel, que dans l'idée d'humanité, que dans l'idée qu'il y a bien quelque chose de l'ordre de l'humanité qui dépasse la singularité de nos différences. Voilà, c'est à cela que Houellebecq n'a pas tout à fait renoncé. Mais ça ne fait pas de lui un homme de bon sentiment, ça fait de lui un homme de droit. Ça fait de lui le penseur d'un droit international. Entre Houellebecq et Reddy, c'est intéressant. Reddy, c'est celui dont la mélancolie dans les lettres persanes... Il y a beaucoup plus de lettres d'Houellebecq, c'est Houellebecq qui écrit le plus dans les lettres persanes. Mais Reddy écrit un peu. Et à chaque fois que Reddy écrit, on s'aperçoit que la mélancolie chez lui tempère l'envie d'apprendre. Modère la curiosité, atténue la curiosité. Alors que chez Houellebecq, l'enthousiasme l'emporte toujours sur le scepticisme. C'est-à-dire que l'un et l'autre ont en partage une chose essentielle, c'est le refus que seule la lumière orientale dut les éclairer.
C'est la raison de leur départ.
Enfin, c'est une raison qui arrange tout le monde en vérité, parce que Houellebecq devait partir parce qu'il avait trop d'ennemis à la cour, etc., etc. Donc il devait aussi partir. Il donne des motifs intellectuels à son départ disparant. Mais bon, bien sûr, on est là dans une... c'est évidemment aussi, et en premier peut-être, en tout cas fondamentalement, la raison pour laquelle ils s'éloignent de chez eux. Mais ils n'ont pas le même caractère. Ils refusent que la lumière orientale les éclaire seule. Donc ils font cet exercice d'altération, ils vont à la rencontre d'une autre civilisation, il se trouve que la civilisation à la rencontre de laquelle ils vont, c'est la nôtre, ce qui leur permet, par la candeur feinte que Montesquieu leur attribue, de faire une critique au vitriol de la société qui est la nôtre, tout en faisant une critique au vitriol de la société qui est la leur. Et c'est ça qui est formidable, encore une fois, nous sommes tous les deux bien crédules. Souvenez-vous de la lettre au médecin juif de Livourne. Mais ils n'ont pas le même caractère. Quand Reddy, par exemple, il y a une lettre où Reddy décrit complaisamment la décadence de l'Empire romain. Complaisamment, il s'attarde dessus, il insiste, ça l'intéresse beaucoup. Alors que Houellebecq, lui, raconte comment on peut transformer une victoire militaire en concorde civile. Reddy, par exemple, un jour, il est à Venise, et il dit, c'est marrant Venise, parce que... Enfin, c'est marrant, il ne dit pas comme ça, il dit, c'est une ville pourrie, c'est très beau, mais on se demande, il devrait y avoir plus de poissons que d'hommes, pourtant il y a plus d'hommes que de poissons, et ça sent mauvais, les eaux stagnent. Et ça l'inspire beaucoup, et depuis Venise, il se met à imaginer la Terre comme un désert et à envisager le dépeuplement de la Terre. Il pense que les humains se reproduisent de moins en moins. Bon, c'est son truc. Alors que Houellebecq, lui, présente la justice et la vertu comme des qualités innées. Ce que je veux dire, c'est que Reddy pleure et Houellebecq milite. Reddy regarde le monde en face, dans la défaite qu'il a sous les yeux. Houellebecq, lui cherche des remèdes. Et donc, comme toute découverte porte aux yeux de Reddy le risque d'une défaite, parce qu'il pressent que nos âmes se corrompent à mesure que nos sciences se développent, eh bien, il en vient à se demander, tel Rousseau 30 ans avant lui, si l'utilité qu'on retire des sciences dédommage les hommes des méfaits qu'elles produisent.
Mais tout de même, le regard de Houellebecq sur l'Occident, il y a quelque chose qui lui plaît moins. Il est très enthousiaste, mais il y a quelque chose qui lui plaît moins, c'est la condition des femmes.
Oui, ouzbek, en Europe. Tout à fait. Et vous avez des passages très drôles de ouzbek sur la condition féminine. Enfin,
Rika aussi. À un moment, je ne sais plus si c'est ouzbek ou Rika, mais je pense que c'est Rika qui dit les femmes persanes sont belles, les femmes françaises sont jolies.
Que vous êtes heureuse, Roxane, d'être dans le doux pays de Perse et non pas dans ces climats empoisonnés où l'on ne connaît ni la pudeur ni la vertu. Que vous êtes heureuse. Vous vivez dans mon sérail comme dans le séjour de l'innocence, inaccessible aux attentats de tous les humains. Vous vous trouvez avec joie dans une heureuse impuissance de faillir. Jamais homme ne vous a souillé de ses regards lascifs. Votre beau-père, même, dans la liberté des festins, n'a jamais vu votre belle bouche. Vous n'avez jamais manqué de vous attacher un bandeau sacré pour la couvrir. Heureuse Roxane, quand vous avez été à la campagne, vous avez toujours eu des eunuques qui ont marché devant vous pour donner la mort à tous les téméraires qui n'ont pas fui votre vue. Moi-même, à qui le ciel vous a donné pour faire mon bonheur, quelle peine n'ai-je pas eue pour me rendre maître de ce trésor que vous défendiez avec tant de constance ? Quel chagrin pour moi, dans les premiers jours de notre mariage, de ne pas vous voir, et quelle impatience quand je vous eus vu. Vous ne la satisfaisiez pourtant pas. Vous l'irritiez, au contraire, par les refus obstinés d'une pudeur alarmée. Vous me confondiez avec tous ces hommes à qui vous vous cachez sans cesse. Vous souvient-il de ce jour où je vous perdis parmi vos esclaves, qui me trahirent et vous dérobèrent à mes recherches ? Vous souvient-il de cet autre où, voyant vos larmes impuissantes, vous employâtes l'autorité de votre mère pour arrêter les fureurs de mon amour? Vous souvient-il, lorsque toutes les ressources vous manquèrent, de celles que vous trouvâtes dans votre courage, vous mîtes le poignard à la main et menaçâtes d'immoler un époux qui vous aimait s'il continuait à exiger de vous ce que vous chérissiez plus que votre époux même? 2 mois se passèrent dans ce combat de l'amour et de la vertu. Vous poussâtes trop loin vos chastes scrupules, vous ne vous rendîtes pas même après avoir été vaincu. Vous défendîtes jusqu'à la dernière extrémité une virginité mourante. Vous me regardâtes comme un ennemi qui vous avait fait un outrage, non pas comme un époux qui vous avait aimé. Vous fûtes plus de 3 mois que vous n'osiez me regarder sans rougir. Votre air confus semblait me reprocher l'avantage que j'avais pris. Je n'avais pas même une possession tranquille, vous me dérobiez tout ce que vous pouviez de ses charmes et de ses grâces, et j'étais enivré des plus grandes faveurs sans avoir obtenu les moindres. Si vous aviez été élevé dans ce pays-ci, vous n'auriez pas été si troublé. Les femmes y ont perdu toute retenue. Elles se présentent devant les hommes à visage découvert, comme si elles voulaient demander leur défaite. Elles les cherchent de leur regard, elles les voient dans les mosquées, les promenades, chez elles-mêmes. L'usage de se faire servir par des eunuques leur est inconnu. Au lieu de cette noble simplicité, de cette aimable pudeur qui règne parmi vous, on voit une impudence brutale à laquelle il est impossible de s'accoutumer.
Le lieu du sérail dans les lettres persanes, enfin en général, est un lieu très contradictoire parce qu'à la fois il force à la virginité, il pousse à la chasteté, et en même temps il incite les femmes à voir dans le désir le seul lieu de leur liberté un petit peu.
Oui, il dit je voudrais n'être que votre époux et oublier que je suis votre maître. C'est une belle formule d'ailleurs. Sauf que il est épouvantable. Il est épouvantable, il les commande à distance. Il est à distance, il les confie à des eunuques. Alors il y a les eunuques noirs, et puis il y a les eunuques blancs qui sont au-dessus des eunuques noirs. Et les eunuques sont moyennement fiables. Eux-mêmes,
Donc il y a toute une série de lettres, toute une intrigue, vraiment. C'est-à-dire que c'est un livre dans le livre. Il y a plusieurs livres dans le livre, dans les lettres persanes. Il y a le passage sur les troglodytes, il y a un autre passage, une histoire d'amour. Et puis il y a cette histoire parallèle du sérail, du Sbeg. Et l'intérêt de ces affaires de sérail est considérable. Et fait, je crois, des lettres persanes, l'un des premiers ouvrages authentiquement féministes.
D'abord, à l'inverse, parce que beaucoup ont voulu voir un Montesquieu antiféministe.
Ah oui, non, mais c'est une erreur totale. Ceux qui le pensent n'ont qu'à attendre la fin de l'émission, à laquelle qu'on ornera de la lecture par notre Anne Brissier nationale de la dernière lettre des lettres persanes, la lettre de Roxane à Usbek, et ils verront si c'est là l'œuvre d'un antiféministe. Les affaires de sérail sont fondamentales dans les lettres persanes, parce que les femmes représentent une société organisée, une société agglomérée. Elles sont les unes sur les autres, tout au service d'un seul maître qu'elles chérissent et dont elles se disputent les faveurs à distance, parce qu'il est parti. Alors lui-même dit qu'il ne les aime pas d'ailleurs, et elle voudrait se faire aimer de lui. Il confie à ses eunuques le droit de régner sur elle, c'est-à-dire il investit ses eunuques de l'autorité qui est la sienne. Et il est d'une violence extrême dès qu'il entend parler du moindre débordement. Il les menace des foudres du ciel, et alors là le Usbek tolérant, civilisé, sympathique, chaleureux, ouvert, amateur de droit international, favorable au divorce et hostile à la polygamie. Alors là, cet Usbek-là disparaît au profit du chef de chez lui, qui considère que les femmes n'ont qu'à bien se tenir avant qu'il fasse pleuvoir les châtiments sur leur tête folle. Or, il y a parmi ces femmes une femme, Roxane, qui commence par user de la duplicité, c'est-à-dire qui dit « tu es mon maître, mon chéri, mon bien-aimé, etc. etc. » pour lui confesser, en définitive, pour lui avouer, en définitive, les crimes qu'elle a commis sous couvert de duplicité. Et c'est véritablement la figure d'une liberté qui s'affirme face à une tutelle qui ne sait plus comment faire. Il y a une expression de Jean Kelevitch que j'aime beaucoup qui dit de la violence qu'elle est une force faible. Usbek, partisan du droit international, donc il devrait savoir cela pour lui-même, ne cesse de faire l'expérience de cette force faible qui s'exerce en lui ou dont il fait preuve quand il exerce la violence sur les femmes de son harem.
Et son regard sur les femmes françaises.
Alors, son regard sur les femmes françaises est tout à fait édifiant. Usbek, mais comme Rika, comme tous les Persans qui arrivent en France, ils sont totalement déstabilisés par l'atmosphère de stupre, de séduction, le fait que tous les maris sont par définition cocus, c'est-à-dire être mari c'est être cocu. Ils comprennent pas, là, si vous voulez, le décentrement est trop violent, là, pour le coup. Et donc, y a toujours un moment où la rencontre des cultures redevient un choc des cultures, où ils disent vraiment ces mœurs pourries, fétides, ne méritent qu'une seule chose, c'est qu'on retourne chez nous, là où les femmes sont pudiques, décentes et voilées. Alors, par exemple, y a la lettre 52 est une lettre de Rika à Usbek. Ils sont d'accord sur les femmes, là, pour le coup, tout le monde est d'accord. Les femmes de Paris, c'est n'importe quoi. La lettre de Rika à Usbek est très intéressante à ce titre, parce qu'elle l'articule une sorte de stupéfaction face au tempérament séducteur des femmes, à l'idée que faut vraiment pas se prendre pour le centre du monde. Il dit ça. J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. Il y avait là des femmes de tous les âges. Une de 80 ans, une de 60, une de 40, qui avait une nièce de 20 à 22. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière, et elle me dit à l'oreille
« Que dites-vous de ma tante qui, à son âge, veut avoir des amants et fait encore la jolie ?»«
Elle a tort, lui dis-je. C'est un dessein qui ne convient qu'à vous. » Un moment après, je me trouvais auprès de sa tante, qui me dit
« Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins 60 ans et qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toilette ?»«
C'est du temps perdu, et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. » J'allais à cette malheureuse femme de 60 ans et la plaignais dans mon âme lorsqu'elle me dit à l'oreille
« Y a-t-il rien de si ridicule ? Voyez cette femme qui a 80 ans et qui met des rubans couleur de feu. Elle veut faire la jeune et elle y réussit, car cela approche de l'enfance. »
« Ah bon Dieu, dis-je en moi-même, ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres ? C'est peut-être un bonheur que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. Cependant, j'étais en train de me divertir et je dis « Nous avons assez monté, descendons à présent et commençons par la vieille qui est au sommet. Madame, vous vous ressemblez si fort, cette dame à qui je viens de parler, et vous, qu'il semble que vous soyez deux sœurs, et je vous crois à peu près de même âge. »
Vraiment, monsieur ? Lorsque l'une mourra, l'autre devra avoir grand-peur. Je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence.
Très amusant dans ce passage. Alors après, Rika fait donc la trajectoire à l'envers. Donc la dame de 80 ans dit qu'elle a le même âge que celle de 60, celle de 60 dit qu'elle a le même âge que celle de 40, celle de 40 dit qu'elle a le même âge que celle de 20, et ainsi de suite. Conclusion de Rika, les femmes qui se sentent finir d'avance par la perte de leurs agréments voudraient reculer vers la jeunesse. Et comment ne chercheraient-elles pas à tromper les autres ? Elles font tous leurs efforts pour se tromper elles-mêmes et se dérober à la plus affligeante de toutes les idées. Bon, c'est un texte drôle, épouvantable, misogyne, et en même temps, spinoziste là aussi, dans la mesure où il s'agit de ne pas sentir que le ridicule des autres. Or, ce que ces femmes ont en commun, c'est qu'elles ne sentent que le ridicule des autres. Elles n'ont pas tort de trouver les autres ridicules. Parce qu'il y a quelque chose de ridicule dans le fait de ne vouloir pas faire son âge, ou de prétendre qu'on a le même âge que quelqu'un qui a 20 ans de moins que soi. Il y a quelque chose de ridicule là-dedans, mais c'est un ridicule qui ne dispense pas de voir le sien. De sorte que, dans cette lettre, qui est un modèle d'une forme de misogynie, se retrouve également une intuition fondamentale qui est l'aptitude à sortir de soi pour accéder justement à son propre ridicule. La seule façon de se découvrir ridicule, c'est encore une fois de se décentrer, de sortir de soi.
Alors on est dans un des passages les plus drôles des lettres persanes, mais comme je suis un peu d'humeur mélancolique, j'aimerais qu'on entende la lettre du suicide de Roxane.
Oui, puis c'est surtout la fin de l'émission.
Oui, je t'ai trompée. J'ai séduit tes eunuques. Je me suis jouée de ta jalousie. Et j'ai su de ton affreux sérail faire un lieu de délices et de plaisir. Je vais mourir. Le poison va couler dans mes veines. Car que ferais-je ici, puisque le seul homme qui me retenait à la vie n'est plus ? Je meurs, mais mon ombre s'envole bien accompagnée. Je viens d'envoyer devant moi ces gardiens sacrilèges qui ont répandu le plus beau sang du monde. Comment as-tu pensé que je fusse assez crédule pour m'imaginer que je ne fusse dans le monde que pour adorer tes caprices ? Que pendant que tu te permets tout, tu eusses le droit d'affliger tous mes désirs ? Non. J'ai pu vivre dans la servitude, mais j'ai toujours été libre. J'ai réformé tes lois sur celles de la nature, et mon esprit s'est toujours tenu dans l'indépendance. Tu devrais me rendre grâce encore du sacrifice que je t'ai fait, de ce que je me suis abaissée jusqu'à te paraître fidèle, de ce que j'ai lâchement gardé dans mon cœur, ce que j'aurais dû faire paraître à toute la terre. Enfin, de ce que j'ai profané la vertu, en souffrant qu'on appelât de ce nom ma soumission à tes fantaisies. Tu étais étonné de ne point trouver en moi les transports de l'amour. Si tu m'avais bien connu, tu aurais trouvé toute la violence de la haine. Mais tu as eu longtemps l'avantage de croire qu'un cœur comme le mien t'était soumis. Nous étions tous deux heureux. Tu me croyais trompé et je te trompais. Ce langage sans doute te paraît nouveau. Serait-il possible qu'après t'avoir accablé de douleur, je te forçasse encore d'admirer mon courage ? Mais en effet, le poison me consume, ma force m'abandonne. La plume me tombe des mains. Je sens affaiblir jusqu'à ma haine. Je me meurs.
Qu'est-ce que Montesquieu écrit bien quand il écrit pour une femme, enfin en tant que femme?
C'est si beau, hein, c'est beau, ce texte. Et si c'est pas l'œuvre d'un féministe, ça, quand même. Non, j'ai pu vivre dans la servitude, mais j'ai toujours été libre. J'ai réformé tes lois sur celles de la nature et mon esprit s'est toujours tenu dans l'indépendance. On est au début du XVIIIe siècle. Cet homme-là est un découvreur. C'est le même qui, dans la lettre 114, fait dire à Usbek: il n'y a rien de si contradictoire que cette pluralité des femmes permise par le Coran et l'ordre de les satisfaire donné dans le même livre. Vraiment, tu as eu l'avantage de croire qu'un cœur comme le mien t'était soumis, nous étions tous deux heureux, tu me croyais trompé et je te trompais. Victoire. Victoire en forme de défaite. Cette femme meurt, mais elle est l'étendard d'une lutte nouvelle. Cette Roxane des lettres persanes est un personnage inaugural. C'est le début de la lutte. C'est le début de la conquête des droits. C'est le début d'une liberté conquise sur la tyrannie masculine. C'est évident. Et c'est un texte, à cet égard, moi, je trouve décisif. Et c'est extraordinaire parce que les lettres persanes s'arrêtent là-dessus. Les lettres persanes s'arrêtent sur la lettre d'une persane qui, elle, n'a pas bougé d'Ispahan, qui n'a pas bougé d'Ispahan et qui pourtant est autrement plus libre que tous les persans qui ont confronté leur culture ou ce qu'il en reste à une culture venue d'ailleurs.
Merci Raphaël, merci à tous, François Connac et Alice Ramon, notre attachée de production qui met pour vous en ligne écoute et bibliographie. Un grand merci à notre lectrice Anne Brissier et à notre lecteur Georges Kless. On se retrouve samedi prochain à la même heure pour vous parler de la petite phrase de Vinteuil chez Proust. Je vous rappelle également que vous pouvez vous procurer le hors-série de Philosophie Magazine spécial Nietzsche. À 17h sur France Culture, tout de suite, une vie, une œuvre.